Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Nouvelle incursion des rebelles ADF ce matin à Kirindera, dans le territoire de Beni, au nord Kivu. Bilan provisoire, 19 morts et des maisons incendiées. C'est la troisième attaque dans la région en moins d'une semaine, avec près de 70 civils tués au total, signalent des sources sur place. Province de la Tchopo, la conférence sur la biodiversité dans le bassin du Congo de Kisangani déjà clôturée. Cependant, les participants nationaux comme internationaux restent bloqués sur place au chef-lieu de la Tchopo. En cause, l'annulation successive des vols Kisangani-Kinshasa et Kisangani-Goma par les compagnies d'aviation locales. Et puis, dans Rubangi, le jardin botanique et zoologique de Badolité, victime depuis 2 ans de spoliation par le groupement Lité. Ce site fut un bien privé de feu président Mobutu, mais depuis 2008, il appartient à l'ICCN. L'affaire de spoliation est en justice. Pour en parler, nous recevons le directeur général de ce jardin. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du territoire de Beni au nord Kivu. 19 personnes tuées, un centre de santé, des maisons d'habitation ainsi qu'un hôtel de la place incendié. Tel est le bilan encore provisoire d'une nouvelle incursion des rebelles ADF dans le village de Kirindera. Cela s'est passé au petit matin de ce dimanche. Le récit de Guylaine Kassassia.
Le village de Kirindera est situé à plus ou moins 6 km de la commune rurale de Kyondo, dans la chefferie de Bachou. Mouindo Viaoula Joachim, bourgmestre de la commune de Kyondo, qui confirme l'attaque, indique que ses assaillants ont également emporté plusieurs personnes et des biens pillés. Pour l'instant, ajoute la même source, le fouille se poursuivent, chose qui pourrait alourdir le bilan plus tard. Nos efforts jusque-là pour avoir la réaction de l'armée n'ont pas abouti. Par ailleurs, le gouverneur du Nord-Kivu en congé, Karline Zanzuka-Sivita, qui est un élu du terroir, a dans un tweet publié ce dimanche matin, déplorer cette énième attaque des ADF dans la chefferie de Bachou. Il indique que tous les grands villages aux alentours du parc national de Virunga ont besoin d'une couverture sécuritaire. Pour rappel, cette attaque est la troisième dans la région en l'espace de moins d'une semaine. Les 40 victimes de l'attaque de Mukondi mercredi ont été inhumées ce mercredi 11 mars. Les trois attaques ont jusque-là causé la mort de près de 70 personnes civiles. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
Pendant ce temps, une accalmie est observée depuis ce dimanche matin autour de la cité de Sake. Néanmoins, une grande psychose règne dans la région. Toute la journée d'hier samedi, cette zone a été le théâtre d'affrontements violents pour le troisième jour consécutif entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Plusieurs bombes sont tombées dans certains quartiers de Sake lors de cette bataille, faisant au moins 3 morts et 4 blessés parmi les civils. Un élu du territoire de Masisi condamne cette situation et appelle encore les rebelles au respect du cessez-le-feu qu'ils ont annoncé. Le député provincial Alexis Baunga, joint par Bernard Nyangi.
Au moment où on devait observer un cessez-le-feu tel que décrété par les protagonistes, on assiste par contre à une continuation des affrontements, notamment à Sake, où le M23 venait de bombarder plusieurs quartiers de la cité de Sake, qui viennent de faire plusieurs morts, notamment 2 femmes, 1 homme et 6 blessés. Des victimes innocentes, des civils, qui viennent d'être tués innocemment par les rebelles du M23 à Sake. Voilà pourquoi je dénonce avec véhémence ce qui s'est passé à Sake et demande au M23 de cesser son aventure en continuant à tuer les Congolais. Les Congolais ont besoin de la paix. Rien que la paix, on ne peut pas continuer à tuer les populations comme des rats et ainsi de suite. Donc je demande au M23 de tout faire pour observer ce cessez-le-feu et déposer les armes.
Rappelons que les affrontements d'hier samedi se sont concentrés sur la colline Kiouli, village Murambi, où sont fixées les antennes des réseaux Vodacom, Airtel et Orange, à quelques 3 km de Sake. Les détonations qui ont été entendues dans la ville de Goma ont aussi perturbé la quiétude des habitants dans cette zone. Pendant ce temps, les femmes du Nord Kivu demandent au Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer la paix dans la région des Grands Lacs et de sanctionner le Rwanda pour son implication dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Elles l'ont dit ce dimanche matin lors de la rencontre avec les membres de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, délégation en mission à RDC et qui séjourne actuellement à Goma. Toutes des noires vêtues, symbole du deuil imposé à des centaines de milliers de familles congolaises depuis 3 décennies maintenant, ces femmes souhaitent voir désormais l'histoire de la guerre au Kivu racontée au passé. Reportage de Rosalie Zawadi. pour justifier la nécessité de l'instauration urgente de la paix dans l'est de la RDC. Les femmes du Nord Kivu ont présenté aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU les conséquences de la guerre sur la vie de la population dans cette zone.
Ça fait plus de 30 ans que nous vivons sous des coups de balles. Quand vous allez à Beni, vous allez y retrouver les ADF. Quand vous descendez dans la partie sud, il y a le M23 qui a surgi encore.
On est fatigué. On ne sait pas si demain deviendra quoi. Nous avons des enfants qui n'étudient plus. Nous avons deux familles qui sont séparées. Nous connaissons des atrocités chaque jour. Nous avons des rêves comme leurs enfants, comme leurs épouses. Mais quand est-ce que nos rêves se réaliseront aussi longtemps qu'on est dans un contexte permanent de l'insécurité?
Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont envoyé les femmes du Nord Kivu auprès du gouvernement congolais, explique Madame Nelly Lumbulumbu de la coalition Sauti ya Mama Mkongomani. Entendez la voix de la femme congolaise.
C'est vrai, ils sont sensibles par rapport à notre message, mais ils nous demandent encore une autre chose à faire, c'est d'aller vers le gouvernement de la RDC, qui est le premier garant de la protection de la sécurité des civils, des Congolais dans notre pays. C'est vrai, mais nous savons que la guerre que nous avons, c'est une guerre d'agression. Il y a la Charte des Nations Unies qui interdit l'agression. Le Conseil de sécurité, c'est l'organe qui peut imposer la paix dans le monde. Donc c'est ce que nous voulons, qu'ils agissent.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Par ailleurs, l'ASBEL Congo Action pour la diplomatie agissante, CADA, appelle les Nations Unies à s'assumer parce qu'il y va de la crédibilité de l'organisation mondiale, cela dans la mesure où l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie qui bat son plein dans la partie orientale du Congo, occupée par son armée et ses supplétifs du M23, ne sont plus discutables. Cette structure l'a déclaré à travers un communiqué publié hier samedi. Son coordonnateur appelle le Conseil de sécurité de l'ONU de passer des paroles aux actes, en condamnant ouvertement et sans équivoque le Rwanda, en le sanctionnant, ainsi que le M23. Eric Kamba, coordonnateur de CADA, s'explique au micro d'Alain Rung.
CADA appelle les Nations Unies à s'assumer, parce qu'il y va de la crédibilité de l'organisation mondiale, dans la mesure où l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie qui bat son plein dans la partie orientale du Congo, occupée par son armée et ses supplétifs, ne sont plus discutables. Pour CADA, il s'agit ici d'un secret des polichinelles entretenu par l'ONU et certains de ses membres. Et pourtant, ce secret est connu de tous. Les détenteurs du secret de polichinelles, donc, l'ONU et certains de ses membres, ne manifestent pas librement la connaissance qu'ils ont. Et par conséquent, ils ignorent les niveaux de connaissance des autres. CADA appelle donc cette délégation du Conseil de sécurité de l'ONU de passer des paroles aux actes en condamnant ouvertement et sans équivoque le Rwanda et en les sanctionnant ainsi que les M23. CADA tient à faire savoir que faire autrement serait encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en RDC et d'autre part nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ses crimes au Congo.
Direction la province de la Tchopo, le coordonnateur provincial du programme de développement local de 145 territoires s'est dit satisfait de la validation des axes routiers et autres infrastructures à réhabiliter et ou à construire dans le cadre de ce projet. Il a exprimé hier samedi à l'issue de la télé de validation y afférente. Toutefois, J. Verlin Chimanga déplore le manque d'archives relatives aux travaux préparatoires antérieurs, ce qui a mis les nouveaux animateurs de la territoriale en difficulté au cours de cet atelier, puisque, dit-il, ne connaissant pas les réalités de terrain. Le coordonnateur provincial du programme 145 territoires dans la Tchopo explique au micro de Jacques Moukonkolé.
Je peux, avec beaucoup de satisfaction, confirmer que les administrateurs du territoire, les diverses parties prenantes, sociétés civiles, services étatiques, ont contribué aujourd'hui à confirmer tous les axes qui ont été identifiés l'année passée et nous avons le PV en guise de résultat. Mais nous déplorons le fait que tous les administrateurs du territoire avec lesquels nous avons travaillé l'année passée ne sont plus en fonction aujourd'hui. Tous les administrateurs du territoire reçus aujourd'hui n'avaient pas de la matière. Le fond du problème, c'est lequel il y a un souci d'archivage. Tout ce qui a été puis capitalisé l'année passée avec les administrateurs partis, aujourd'hui, on n'a rien, quoi. Donc, il n'y a pas d'archives. Ceux qui sont arrivés doivent repartir à zéro.
Est-ce que cela pourrait avoir un impact dans l'exécution des travaux?
Cela a un impact, évidemment, parce que il y a eu des avancées obtenues avec les administrateurs qui étaient là l'année passée. Alors, le fait d'avoir eu les représentants de territoire qui sont novices, qui ne maîtrisent pas encore les réalités, les contraintes ou les défis des territoires qu'ils dirigent aujourd'hui, il a fallu recourir à la perspicacité du chef de division du plan. Heureusement pour lui, il a été à la genèse de la chose.
Signalons que la pose de la première pierre pour la construction des infrastructures dans le cadre de ce projet dans la Tchopo interviendra au courant de la semaine qui commence dans un des trois territoires proposés à l'autorité provinciale, à savoir Isangi, Bafoisende et Ubundu. Restons dans la Tchopo pour signaler que la pré-conférence sur la biodiversité dans le bassin du Congo de Kisangani se prolonge contre le gré des participants nationaux comme internationaux. Principale cause, l'annulation successive des vols Kisangani-Kinshasa et Kisangani-Goma par les compagnies d'aviation locales. Du coup, ce sont des dizaines de conférenciers qui se trouvent coincés pour encore deux ou trois jours selon les cas. Les répercussions sont des divers ordres côté organisateur tout comme participants. Billy Van Lutumba nous raconte.
Les organisateurs de la conférence affirment être perturbés par diverses manières, notamment sur le plan administratif, logistique et aussi de prise en charge pour autant des participants venus d'autres pays. Stan Verkreus est journaliste à la chaîne belge Verte News.
Le dimanche, on a dit le vol est annulé pour la CAA. Nous pensons de prendre le vol de Kinshasa à Bruxelles le mercredi, trois jours plus tard que prévu.
Daniel Fossa, ingénieur des eaux et forêts, est venu du Cameroun. Il était aussi programmé pour un vol de dimanche.
Qu'on devait quitter Kitangani dimanche pour unité à Kinshasa ou prendre le vol le lendemain. On rentre matin, on vient nous confirmer que le voyage a été annulé. On va plutôt quitter le lundi Kitangani.
Stan Verkreus, le journaliste belge, regrette les conséquences que cela engendre.
Ça va coûter, hein, parce que nous devons allonger aussi notre hôtel, notre chauffeur. Le vol pour remplacer le vol, ça aussi coûte un peu d'argent.
L'ingénieur camerounais, pour sa part, affirme être attendu au pays par une délégation en provenance des États-Unis. Unis pour une descente sur terrain.
J'ai un partenaire qui doit venir des États-Unis pour le terrain et on avait déjà calé les choses pour le 14 comme début d'activité. Maintenant, c'est moins sûr. La population était déjà informée qu'on va arriver le 15. Vous voyez que ça chamboule un peu tout, quoi.
Le vœu des uns et des autres est que lundi ne puisse connaître d'autres cas d'annulation ou de report de vol. De Kisangani, Billy Ivan Lutumba, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, près de 50 filles ont été sensibilisées hier samedi sur la santé sexuelle et reproductive en marge du mois de la femme. À l'initiative de l'ONG Enfants à venir, ENAV, cette session a voulu amener les participantes à adopter des comportements sexuels responsables. Selon le coordonnateur pays de cette structure citoyenne, Maître Pierre Bibombé, cette attitude permettra à ces filles de se méfier de certaines pratiques, dont les grossesses non désirées, des avortements et autres dangers. Il a également expliqué avoir fait comprendre à ces filles leur importance de participer aux côtés des garçons pour le développement du pays. Maître Pierre Bibombé est au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
C'est une activité explorative pour les inviter à développer des comportements sexuels responsables. Mais notre souci, dans le cadre de ces forums que nous avons organisés, nous avons amené les jeunes à comprendre l'importance de l'abstinence d'abord. Nous avons prêché l'abstinence. Que les jeunes parviennent à comprendre que les rapports sexuels non protégés avant le mariage peuvent conduire à des conséquences néfastes. Il y en a qui n'avaient aucune information sur ça, mais qui se donnent aux relations sexuelles non protégées avec toutes les conséquences qu'il y a. Donc, c'est-à-dire les vaccins, les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, vous voyez. Donc, des filles n'avaient pas suffisamment d'informations. Or, pour sauver les vies, les jeunes au jour d'aujourd'hui ont besoin d'une information sûre et vraie sur leur santé reproductive. On a présenté plusieurs thématiques, la protection contre les violences basées sur le genre, protection contre l'exploitation bisexuelle. Nous avons parlé aux jeunes sur des différents tests juridiques nationaux, régionaux et internationaux.
Notez qu'à travers ce forum, l'ONG ENAV a par ailleurs planché sur le protocole de Maputo qui répond aux questions sur la sexualité non protégée.
Actualité internationale.
À Paris, des membres de la diaspora sénégalaise ont manifesté samedi à l'appel du parti de l'opposant Ousmane Sonko. Ces manifestants veulent à tout prix empêcher Macky Sall de briguer un troisième mandat au Sénégal. Pour le professeur Moulay Aïdara, le Sénégal doit se construire indépendamment des intérêts français. L'heure est à la mise en place d'un État fort, maître de son destin. Au Texas, aux États-Unis, un homme porte plainte contre trois femmes pour avoir aidé son ex-épouse à avorter. Le couple avait déjà deux enfants et était en pleine procédure de divorce à Galveston, au sud de Houston. C'est la première poursuite judiciaire de ce type. Toute la procédure repose sur des échanges de textos pris en photo et récupérés par l'ancien mari. Dans la plainte, Marcus Silva accuse son ex-femme d'avoir conspiré avec deux amis pour obtenir deux médicaments qui, combinés, provoquent un avortement.
L'invité.
Le jardin botanique et zoologique de Gbadolité, victime depuis deux ans d'espoliation par le groupement Lité. Ce groupement se réclame comme étant peuple autochtone et propriétaire de ces terres. Avec une superficie de 300 hectares, ce site qui fut un bien privé de feu président Mobutu est devenu depuis 2008 propriété de l'ICCN. L'affaire de cette spoliation est aujourd'hui en justice, mais les constructions et coupes d'arbres se poursuivent malgré l'arrêté provincial du gouverneur du Nord Kivu. Pour en parler, nous recevons le docteur André Kupita Yekuma, directeur général du jardin botanique et zoologique de Gbadolité. Il répond aux questions de Sarah Sumbela.
Quel est le principal problème que fait face ce jardin botanique?
Le principal problème, je dirais, c'est d'abord le fait que depuis qu'il a été intégré dans les aires protégées de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, il n'a jamais été réhabilité. En 1997, ce jardin fut pillé et détruit. Mais depuis qu'il a été réintégré dans les aires publiques qui devaient être gérées par un établissement, il n'a jamais été réhabilité. C'est ça d'abord le grand problème qui a aussi des conséquences.
Mais nous apprenons que le jardin est aujourd'hui victime de spoliation. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Bon, ce jardin est victime de spoliation. Après les constats sur le terrain, après les renseignements qui sont à notre disposition, ce jardin est en train d'être spolié, en grosso modo, par l'ex-groupement Lité.
Les groupements Lité, qui sont-ils?
Quand je dis ex-groupement Lité, parce qu'aujourd'hui, dans la ville, on ne parle plus de groupement. Il y a effectivement des membres de ce groupement, de ces ex-groupements qui se disent être autochtones et qui croient avoir de l'autorité sur ces terres protégées.
Mais sachant que ces terres protégées est devenue la propriété de l'ICCN, si je ne m'abuse, comment est-ce qu'un groupement peut venir le réclamer jusqu'au point de venir se polluer?
C'est ça la question que nous sommes en train de nous poser et cette affaire est déjà au niveau du parquet général, auprès de la cour d'appel du Nord-Oubangui.
Et quel a été l'apport du gouvernement dans ce conflit entre les autochtones et vous?
Bon, l'apport du gouvernement, à un certain moment, le gouvernement provincial étant saisi, il a pris une décision à travers un arrêté provincial portant sur la démolition et le balayage de toutes les constructions anarchiques au niveau du jardin botanique et zoologique de Gbadolité.
En termes de pertes, pouvons-nous dire que le jardin botanique a perdu combien de sa superficie?
Cette spoliation nous a apporté comme perte l'abattage de 500 manguiers dans 50 hectares. Et dans ce 50 hectares, et au moment où nous sommes avec vous ici, si nous y allons, vous verrez qu'il y a des constructions anarchiques. Bon, ces mêmes personnes qui se réclament avoir une certaine autorité sur ces terres protégées vendent des lopins de terre à d'autres personnes. C'est depuis 2018 que cette situation dure et c'est en 2018 que l'arrêté provincial de la décision de démolition a été pris.
Est-ce que l'arrêté est respecté?
Bon, je peux dire que l'arrêté est respecté par le fait respecté par celui qui l'a fait parce qu'il avait déjà exécuté partiellement ce qu'il avait pris comme décision. Mais pour le moment, il y a disons un temps mort. Alors, ces gens-là profitent de ce temps mort pour continuer à spolier.
Le jardin botanique de Gbadolité n'est-il pas protégé par un service de police de l'ICCN ou des gardes?
Bon, nous avons des gardes, mais qui, pour le moment, ne sont pas encore dotés. Ils sont là, mais ils ne sont pas dotés. Ils ne sont même pas encore formés. Il y a un projet au niveau de la direction générale à ces propos.
Et que fait l'ICCN par rapport à cette spoliation?
La première chose que l'ICCN a commencé à faire, c'était d'abord de nous donner la procuration d'ester en justice. Parce que ici, même sur le plan local, nous sommes protégés par le procureur général. Cette terre est protégée par le procureur général. Il nous a donné cette procuration d'ester en justice pour que nous soyons assisté par un avocat. L'affaire est maintenant au niveau de justice. Mais qu'est-ce qui complique cette affaire? Vous voyez, quand nous parlons de l'ex-groupement, on a l'impression comme s'il s'agit des autochtones, alors qu'il n'en est pas question. Si vous allez faire l'enquête sur le terrain, vous verrez que ce sont des lopins de terre qui sont vendus à tout le monde. Ce ne sont pas les soi-disant autochtones. Ce sont tout simplement un groupe de quelques personnes qui se disent autochtones, qui sont en train de vendre des lopins de terre. Et l'affaire est maintenant en justice. Mais en attendant, ça continue. Le message que j'ai à lancer à l'autorité, c'est d'abord un message qui découle de la loi. Le jardin botanique et zoologique de Guadeloupe, c'est une aire protégée. Et comme elle est une aire protégée, ce que nous demandons tout simplement à l'autorité, c'est de continuer dans le sens de la loi. Il y a eu un arrêté, il faut que cet arrêté-là soit exécuté dans son entièreté. Et tout le monde va respecter, puis toutes ces personnes-là qui sont en train de se prétendre être aussi des propriétaires de cette terre, qu'ils soient inquiétés, ils ne sont même pas nombreux.
Voilà, c'était là notre invité, le directeur général du jardin botanique et zoologique de Gbadolité dans le nord Ubangi, André Kupita Yekuma, répondait aux questions de Sarah Sumbela. C'est la fin de ce journal, coordonné et supervisé par Piero Elameji et Alain Romouchinj, Dieudonné Nyangasa, la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.